Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Vivre et mourir pour Haïti. Cette déclaration, mon invité aujourd'hui pourrait la faire sienne. Elle qui est née à Port-au-Prince, qui a grandi sous la dictature, qui est revenue après ses études au Canada comme enseignante, journaliste et dont l'œuvre littéraire est nourrie de ce lien avec ce pays qui lui a beaucoup donné, mais aussi beaucoup pris. Une île qu'elle ne cesse de raconter dans ses livres depuis Mémoire d'une amnésique et qui aujourd'hui est au cœur de son nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Remue Ménage sous le titre Tu nous manques. Bonjour Jean J. Dominique.
Bonjour Catherine.
Vous avez dû quitter Haïti il y a plus de 20 ans et pourtant ce pays est toujours au centre de votre écriture. Pourquoi ?
Parce que, comme je crois le dit un de mes personnages, ou alors je l'ai dit ailleurs, on peut quitter Haïti, mais Haïti ne vous quitte jamais. Et je ne suis pas la seule. Il y a même des non-haïtiens qui rentrent, qui découvrent le pays, qui découvrent les Haïtiens du pays et qui, comme on dit au Québec, tombent en amour avec Haïti. Donc, l'histoire tragique d'Haïti aussi fait qu'il est difficile d'oublier le pays, d'oublier ce qu'on a connu, ce qu'on a vécu. Et c'est pourquoi je n'arrive pas. On me demande souvent, tu ne veux pas écrire autre chose ? J'aimerais bien écrire autre chose, mais je n'arrive pas.
Ici, sur trois générations, on entend la voix de plusieurs femmes, grand-mères, filles, petites-filles, qui à tour de rôle des années 60 à aujourd'hui, qu'elles soient en Haïti, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, racontent les conséquences sur leur existence de cette violence cyclique. L'une de ces protagonistes s'appelle Karine et elle naît en 1957, l'année même de l'arrivée au pouvoir de François Duvalier, Papadoc le dictateur. Choisir cette date symbolique, est-ce que c'est dire que dès la naissance, cette génération a été marquée malgré elle par le sceau de la violence ?
Absolument, absolument. Et cette génération, j'ai choisi 57 parce que c'est très fort comme date. Mais tous ceux qui sont nés un peu avant ou un peu après n'ont connu que la dictature. C'est un monde qui vous marque, forcément. Et même après la chute de la dictature, on continue avec les séquelles de cette dictature. On ne peut pas ne pas avoir ces séquelles. Et même quand on essaie de ne pas y penser ou de ne pas, comme on me dit souvent, arrête de ressasser. Non, je ne ressasse pas. Je ne peux pas ne pas y penser. Je ne peux pas.
Parce que précisément, Jean-J. Dominique, c'est votre génération, n'est-ce pas ? Quel souvenir avez-vous de cette époque, de votre propre enfance ?
Tout ce que je raconte dans mes romans, je l'ai ou vécu, ou entendu, ou imaginé à partir d'événements réels. La dictature avait posé une chape de plomb sur le pays. Donc, en essayant de se souvenir, en essayant d'en parler autour de nous, cette génération, on a fini par s'apercevoir qu'on nous avait caché beaucoup de choses, que ce qu'on avait cru comprendre n'était pas forcément la réalité. Donc, il a fallu creuser, il a fallu chercher. Comme les personnages de mes romans, il faut tout le temps essayer de voir si c'était vrai, si on avait bien compris surtout ce qui se passait. Et ça continue. Maintenant, j'ai encore des couches que j'arrive à soulever en croyant que j'ai tout découvert depuis 30 ans, ou maintenant ou presque 40 ans, que les Duvaliers sont partis, parce que je ne dis jamais que la dictature a été... Non, les Duvaliers sont partis, hein. Les séquelles sont encore là. On parle de déchoucage de la dictature, eh bien, il reste encore beaucoup de racines qui n'ont pas été arrachées.
Et de ça, il est question, en effet, dans votre roman, et on va en parler un peu plus tard avec vous, Jean-J. Dominique. Précisément, cette chape de plomb, il en est question dans cette fiction avec ses enfants, Karine, qui a donc un frère, Philippe, qui, lui, grandit différemment, puisqu'il s'enferme dans un silence, un mutisme profond. Il se coupe des liens affectif avec sa famille. Est-ce que vous diriez que c'est une réaction, en effet, à la violence du pays qu'il a senti au plus profond de lui-même ?
Oui. Philippe représente pour moi beaucoup de jeunes qui se sont enfermés, ou parfois pas dans le silence forcément, mais dans le déni. Philippe ne parle pas. Philippe ne parle pas parce que c'est la façon la plus frappante de parler de cet enfermement. Mais il y en a qui parlaient, mais qui en même temps étaient tellement superficiels, les jeunes autour de moi qui étaient tellement superficiels que c'était comme s'ils ne parlaient pas. Et ce silence et cette violence que Philippe a vécue, parce qu'il a vécu un épisode de violence. Et quand il raconte cet épisode à sa sœur, elle lui dit « Tu vas en raconter à maman ?» Il dit « Non, c'est fini. » Ce fini-là, c'est « Je me tais, je ne peux plus en parler. » Donc, Philippe est très représentatif d'une génération qui n'a pas entendu ou n'a pas voulu entendre, n'a pas pu entendre ce qui se passait parce qu'on leur cachait tout.
Philippe va finir par parler, et cela grâce à un médecin prénommé Jacques, dont on devine qu'il a peut-être été inspiré par l'écrivain haïtien Jacques-Stéphane Alexis, qui lui aussi était docteur. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, c'est le cas.
Pourquoi ?
Oui. Parce que Jacques-Stéphane Alexis, c'est quand j'ai grandi, parce que quand j'étais petite fille, on ne savait pas ce qui s'était passé pour lui. On ne savait pas qu'il avait été assassiné. On ne savait pas. Et en grandissant, je me suis rendu compte que c'était un être exceptionnel. C'était quelqu'un dont la force de caractère m'a toujours fascinée, parce que non seulement il est revenu pour faire la guérilla, c'est comme ça qu'il est mort, mais en plus il avait écrit une lettre magnifique au dictateur pour lui dire « Je pourrais m'en aller, je trouverais à travailler dans tous les pays du monde à cause de mes compétences, mais je ne veux pas. Alors si vous ne voulez pas, vous, que je vive dans ce pays, faites-moi savoir. » Donc, j'aurais aimé écrire sa vie, mais je n'ai pas osé, parce qu'il était trop grand pour moi.
Mmh. Donc, c'est Dany Laferrière qui lui a consacré un bel hommage.
Oui.
Humaniste, médecin, écrivain, militant. C'est vrai qu'il a été un résistant à la dictature du Valier. Il en a payé le prix de sa vie.
De sa vie.
Au même titre que Philippe, le jeune frère de Karine qui, exilé aux États-Unis, décide de rentrer au pays, mais qui sera trahi et assassiné par les miliciens. Est-ce qu'il incarne finalement tous les idéalistes qui sont morts pour la liberté dans leur pays ?
Eh oui, on en a eu pas mal. Il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes, beaucoup d'Haïtiens qui ont cru que c'était possible de renverser la dictature et qui très souvent ont été trahis par ceux qui leur donnaient un espoir. Parfois qui leur procuraient des armes, qui leur permettaient d'avoir des camps d'entraînement. Donc il y a toute cette histoire qui n'a pas été écrite chez nous. Cette histoire de la résistance contre Duvalier qui systématiquement était bloquée avant même qu'ils arrivent sur le terrain.
Vous aussi, Jean-Gé Dominique, vous avez été marqué par cette même tragédie de perdre quelqu'un dans le combat. C'est votre père qui a été assassiné en 2000. Il était journaliste, fondateur de Radio Haïti, où vous avez travaillé. Donc, vous êtes un peu chez vous aussi, ici à RFI. Et d'ailleurs, un documentaire lui a été consacré par le cinéaste américain Jonathan Demme, célèbre pour Le silence des agneaux, entre autres. Un film intitulé The Agronomist, l'agronome en français.
I work in the countryside of Haiti. One day I try to work at Radio Haiti. That was it. And I start step by step.
Pourquoi ? Parce qu'il avait une activité dans l'agriculture ?
Il était agronome. Il a étudié l'agronomie et il a commencé à pratiquer son métier dans le nord du pays. Et au moment de l'arrivée de Duvalier, les choses ont été plus difficiles. Il a fait de la prison, mais à l'époque, ce n'était pas encore le monstre que Duvalier va devenir. Et donc, il n'a pas été tué à ce moment-là. Mais son frère, Philippe, qui était militaire, a tenté de renverser Duvalier. Et à ce moment-là, Jean était devenu quelqu'un de persona non grata. Il ne pouvait plus travailler en agriculture. Il a fait des petits boulots. Il a été prof de mathématiques. Il a fait une petite émission de divertissement jusqu'à ce qu'il s'installe à Radio Haïti.
On ne sait toujours pas qui a tué votre père, n'est-ce pas ?
Toujours pas.
Une enquête a été menée ?
Une enquête a été menée, des documents ont disparu, des juges d'instruction ont dû fuir, des témoins ont été assassinés à la manière de toutes les enquêtes qui n'aboutissent pas.
Nos auditrices et nos auditeurs l'ont peut-être entendu, vous portez donc le même prénom que votre père, oui. Même si ça ne s'écrit pas de la même façon. Oui. Lui, c'était Jean, J-E-A-N, oui. Et vous, c'est Jean, J-A-N. Oui. Comment se fait-il que vous vous appeliez comme ça ?
C'est très drôle, parce que la plupart des gens, connaissant mon père, qui était un caractère très fort, et qui me disent « Ah, ton père a voulu, puisqu'il n'a pas eu de fils aîné, il a voulu que sa fille aînée porte son nom », je leur dis « Non, vous vous trompez, c'est ma petite mère qui a voulu ça, c'est ma mère ». Ma mère, elle a des choix assez spéciaux pour ses filles, parce qu'elle a eu trois filles, deux d'entre elles ont des prénoms d'hommes. Il y a moi, Jean, et il y a ma petite sœur Patrice. Elle n'est pas Patricia, elle est Patrice. Donc, c'était l'originalité.
Une façon déjà de dire la force des femmes en
c'est
Haïti,
possible, c'est possible.
Dont on va parler justement encore avec vous, Jean-Gilles Dominique, après cette pause musicale.
C'est celle qui a sauvé nous. Dis-on mon pour nous. Dis-on mon pour nous. C'est celle qui a sauvé nous. M'a demandé jour qu'il est, n'a décidé de refaire la terre. Retirer la guerre, ouais, qui fait tout le monde à vivre dans la misère. Frère, petit frère, sœur, petit sœur, mes amis, nous pas qu'à quoi. Nous besoin la paix, nous besoin l'amour, besoin l'union, avadi qui ça pour nous faire. Dis-on mot pour nous. Dis-on mot pour nous. C'est celle qui a sauvé nous. Dis-on mot pour nous. Dis-on mot pour nous. Maman des jours qu'il est, n'a décidé de rebâtir Haïti. Haïti, Haïti, maman chérie. Pour qui vous finissez, n'est pas fini. Si mon yo a prié, comme on pas qu'à manger. Maman des côtes à praler. Nous besoin la paix, nous besoin l'amour. Besoin l'union, avadi qui ça pour nous faire.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Jean-Gilles Dominique, dont le nouveau roman vient de paraître aux éditions Remue Ménage sous le titre « Tu nous manques ». Le « tu » dans le titre de votre roman, il désigne quelle personne ?
Il désigne tous ceux qui nous manquent. Curieusement, je n'y ai pas pensé quand j'ai choisi ce titre. Curieusement, les gens m'ont dit « Tu parles de ton père ?» Je dis « Non, je ne parle pas de mon père. » Le livre n'est pas du tout dédié ni racontant l'histoire de liée à mon père. J'ai dit « C'est cette espèce de manque abyssal que je ressens, moi, écrivaine, mais aussi, j'imagine, beaucoup d'Haïtiens. » Tous ces gens qui sont partis, qui nous manquent, tous ces gens que l'exil a
dispersés dans
dispersé partout. On a retrouvé des Haïtiens en Mongolie. Et ce n'est pas forcément des gens qui voulaient, c'est la vie qui les a menés là. Donc c'est ce manque et c'est le manque d'Haïti aussi. Ce pays n'arrête pas de nous manquer.
Ce roman, je l'ai dit en première partie, est le récit entremêlé de plusieurs femmes, trois générations de la même famille. Simone, la grand-mère, Karine, la fille, et Coralie et Isabelle, petite fille et cousine. Que disent-elles de différent, ces voix féminines ?
Bon, le fait que ce soit trois générations implique que chacune a une vision du pays et a une expérience du pays. Simone, femme de médecin, donc une privilégiée, qui quand même va souffrir de la dictature. Mais Karine, elle, médecin elle-même, qui soigne les plus pauvres et qui se rebelle contre des gens qui veulent, dans sa salle d'opération, venir achever un militant ou une militante, Karine, elle, va être directement attaquée par les Makoutes et elle doit fuir. Donc, son expérience de la dictature est une expérience personnelle et dans son corps et dans sa vie de tous les jours. Elle doit abandonner ses enfants. Et les jeunes, Coralie et Isabelle, elles, c'est, pour moi, c'est la génération qui nous demande des comptes. Parce que Isabelle va chercher son père qui a fui Haïti, Coralie va se braquer contre sa mère. Donc c'est cette jeune génération qui dit « mais qu'est-ce que vous avez fait de notre pays ? Qu'est-ce que vous avez fait de notre quotidien ? Pourquoi est-ce que les choses sont complètement différentes ?» Donc c'est ce que je voulais faire passer par ces trois générations-là. Et les femmes, pour moi, c'est important. C'est important dans la mesure où, historiquement, notre pays, il tient debout grâce aux femmes. Les femmes, dans tous les milieux, particulièrement dans le milieu populaire, où le plus souvent l'homme, par un concours de circonstances liées à l'esclavage, liées aux difficultés économiques du pays, se retrouve très souvent chef de famille, donc avec une autorité, mais en réalité, c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui apporte tout ce qu'il faut pour élever sa famille. Et dans beaucoup de cas, les femmes sont seules. Elles sont chefs de famille. L'homme est parti, l'homme a été chercher du travail ailleurs. Donc, elles se retrouvent avec un, deux ou cinq enfants, chefs de famille. Donc, pour moi, cette réalité haïtienne qui se transpose aussi dans la diaspora. Hein. Souvent, les femmes haïtiennes de la diaspora sont ce que j'appelle des potomitans. C'est le pilier de la famille. Tout comme j'arrive pas à écrire sur autre chose qu'Haïti, dans mes livres, les femmes, c'est la racine, le socle de la famille.
Alors, comme vous l'avez très bien dit, Jean-Gilles Dominique, effectivement, Simone incarne à la fois la protection, mais peut-être une forme de déni. Karine, elle vit le danger puisqu'elle doit fuir après un coup d'État sa famille, abandonner ses enfants et vraiment être dans la clandestinité pendant des mois, pour ne pas dire des années. Et puis les filles qui ont subi ce manque également de leurs parents ont une forme de colère envers les générations précédentes, mais aussi peut-être contre le silence, comme s'il n'y avait pas eu de transmission intrafamiliale. Oui. Est-ce que vous diriez que malheureusement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a cette violence ?
Aussi. Un silence qui est parfois même coupable, parce que très souvent, les jeunes ne savaient pas, ils n'ont pas été informés, on ne leur a pas raconté l'histoire. Donc, ils ont une interprétation qui peut être biaisée, qui peut être incomplète ou même carrément vraiment biaisée. Parce que cette phrase qui déclenche une espèce de dialogue entre deux de mes personnages, cette phrase où on dit « Sioux Duvalier, c'était mieux ». Donc, quand un jeune qui est né dans les années 90 ou même 2000 entend une phrase comme ça, il se dit c'est peut-être vrai parce que vu la catastrophe qu'on connaît actuellement en Haïti, se faire dire que c'était mieux sous Duvalier, c'est facile pour les jeunes de croire que c'est vrai, que c'était mieux, que les gens vivaient bien, on était heureux.
Et ça, c'est une idée que vous combattez fermement, n'est-ce pas ?
Fermement. C'est pas possible de laisser un tel, comment on appelle ça, il y a un mot, c'est pas possible de faire.
C'est un mensonge.
C'est un mensonge, mais c'est surtout nier, faire tout ce qu'il faut pour que la vérité soit occultée. S'il y a des gens qui veulent faire croire que les camps de concentration n'ont pas existé, donc on comprend très bien que dire que Sioux Duvalier c'était mieux, c'est le même schéma.
C'est du négationnisme.
Négationnisme, c'est le mot que je cherchais.
Isabelle, qui incarne aussi d'une certaine façon la diaspora haïtienne, puisque son père a fondé une famille d'abord au Mexique, et puis une deuxième famille avec une femme au Paraguay. C'est un homme qui a choisi l'exil parce que il veut oublier Haïti. En tout cas, il n'arrive pas à vivre en Haïti. C'est insupportable.
Oui. Et surtout, c'est le plus vieux de la famille. Donc,
Frère aîné de Karine.
Il a vécu les années sombres, les années terribles du début de la dictature, quand on assassinait, on faisait disparaître. Et à ce moment-là, on le faisait quand Duvalier avait une cible et qu'on ne la trouvait pas, on ne trouvait pas Monsieur X chez lui, on arrêtait toute la famille qui disparaissait. Donc, Jean-Baptiste dit à un moment donné, je ne veux pas être responsable de la disparition de toute ma famille. Et évidemment, c'est à la fois une conséquence du traumatisme qu'il a vécu, mais c'est aussi une fuite en avant. Parce qu'il va militer, il va être dans d'autres pays, mais pas en Haïti.
Et vous, Jean-Gilles Dominique, pourquoi est-ce que vous ne pouvez plus vivre en Haïti?
Bon, parce que quand j'ai quitté Haïti, c'était suite à des attaques contre la radio. Michelle, la femme de mon père, elle a été victime d'une tentative d'assassinat. Et lorsque nous avons discuté de tout ça avec les collègues, avec tous les camarades journalistes, on s'est rendu compte qu'ils étaient, à un degré ou à un autre, chacun victime de menaces. On s'est dit qu'après avoir perdu Jean, on n'avait pas envie de perdre d'autres amis. On a perdu d'ailleurs, lors de la tentative d'assassinat contre Michel, son chauffeur a été tué, un tout jeune homme. Ça a été la goutte d'eau.
Donc vous êtes parti contre votre volonté?
Oui. On n'avait pas le choix. Et curieusement, 20 ans après, je me dis qu'à cette époque, nous étions, nous, des cibles. Et maintenant, 20 ans après, tout le monde est une cible. Donc...
Et depuis 20 ans, vous avez pu y retourner?
On a pu y retourner quelques fois, jusqu'au moment où les gangs ont commencé avec la violence aveugle. À ce moment-là, on n'y est plus retourné.
Vous écrivez, Jean-Gilles Dominique, dans votre roman, mais dans les autres aussi, les racines de la violence n'ont pas été arrachées à la fin des dictatures, ce qui explique, selon vous, encore la situation actuelle?
Oui. Oui, les racines de la violence d'une part, et d'autre part, il n'y a pas eu non plus de volonté politique de changer la façon de fonctionner de ce pays. Parce que quand vous observez ces jeunes des gangs, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils détruisent des écoles? Pourquoi est-ce qu'ils détruisent des pharmacies? Pourquoi est-ce qu'ils détruisent des hôpitaux? Mais est-ce qu'on leur a dit, on leur a appris que l'école, c'était important? Est-ce qu'on leur a appris que l'hôpital était indispensable dans une société? Donc, cette société haïtienne, elle n'a rien fait. Nous n'avons rien fait, parce que je me considère moi aussi comme faisant partie de ce groupe. Nous n'avons rien fait pour aider tous ces jeunes. Je ne crois pas que c'est seulement nous qui sommes responsables. Il y a d'autres responsables. Il y a la classe politique qui est responsable. Mais je crois que socialement, les disparités étaient tellement énormes que ces jeunes qui sont dans les gangs, ils ne croient en rien. Ils n'ont aucun espoir. On ne leur a pas permis de devenir des citoyens. Donc, comment leur reprocher, évidemment? Je ne justifie pas la violence, mais j'essaie de comprendre pourquoi mon pays est arrivé à ce point-là.
Et quelles sont les nouvelles récentes que vous avez d'Haïti?
Ça continue. Maintenant, ils s'attaquent aux médias. Ils viennent de brûler une station de télévision et deux stations de radio.
Comment est-ce qu'on peut mettre fin à ce cycle, selon vous?
Là, c'est la grande question. Madame Toussaint, c'est vraiment, je vous avoue que... J'imagine qu'il va falloir y arriver, mais en même temps, je ne vois pas comment. À part un réveil de la société civile haïtienne, en général, elle se réveille contre quelqu'un, mais jamais pour faire des choses. Et c'est ça que je crois qu'il manque.
En tout cas, il faut y croire, il faut se battre. Est-ce que vous diriez, Jean-J. Dominique, vous, avec vos livres, c'est un outil de résistance, de militantisme, même si vous êtes au Québec, un peu loin, mais prêt par le cœur.
Oui, c'est le seul que je puisse maintenant avoir comme outil, comme manière de résister. Je me dis très souvent à quoi ça sert que j'écrive tout ça. Et puis après, non, il faut. Ne serait-ce que pour les générations qui viennent et qui ne sauront pas, si on ne leur raconte pas l'histoire, ils ne le sauront pas, même à travers des romans. Comment c'était, comment on s'est battu, comment on a été écrasé par moments. Donc, pour moi, c'est ma façon de résister. Elle est très, très minime comme façon de résister, mais bon, c'est la seule que je connaisse.
Donc, les mots. Et vous qui vivez au Québec, qui écrivez en français, quel est votre lien aujourd'hui avec la langue créole? Est-ce que c'est une langue que vous continuez de parler?
Oh oui, tous les jours.
Avec qui?
Tous les jours, avec mon compagnon, avec mon fils, avec mes amis haïtiens. Comme l'infirmière, quand j'ai été opérée, m'a dit, c'est quoi ce charabia quand je me suis réveillée? Parce que en sortant de la salle d'opération, dans la salle du réveil, je parlais en créole. Parce que j'étais dans les vapes et l'infirmière québécoise m'a dit « Mais vous parlez charabia ?» Je dis « Non, je parle créole.
» Et vous disiez quoi?
Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais c'est comme dans mes rêves, je rêve en français, je rêve en créole. Je suis parfaite bilingue à ce niveau-là.
Donc c'est une langue vivante plus que jamais?
Absolument, absolument. Et j'espère qu'à Montréal, elle va continuer, parce qu'il y a une forte communauté haïtienne, et dans l'autobus. J'habite un quartier où il y a énormément d'Haïtiens, et dans l'autobus, ça ne parle que créole.
Vous êtes donc au cœur de la francophonie, la langue française, la langue québécoise et la langue créole.
Absolument.
Vous êtes nourri des trois sources.
Des trois. Je parle québécois aussi, parce que très souvent, quand je suis avec mes amis québécois et québécoises, au bout d'une heure, mon accent, je m'entends parler québécois.
Mais quelle richesse, n'est-ce pas?
Absolument, absolument.
Merci beaucoup, Jean-J. Dominique, d'être venu nous parler au micro de Littérature sans frontières de beaucoup de choses, mais précisément de ce nouveau roman. Un nouveau roman qui s'intitule « Tu nous manques » et qui est apparu aux éditions Remue Ménage.
C'est moi qui vous remercie, Catherine.
Et pour finir, en ce mois de la francophonie, je vous rappelle que le prix Voix d'Afrique est reparti pour sa 5e édition. Ce prix littéraire initié par RFI, les éditions Lattès, en partenariat avec la Cité internationale des arts et France 24, a pour objectif de révéler les nouvelles plumes du continent africain. Ce concours s'adresse à toute personne âgée de 18 à 30 ans, n'ayant jamais été publiée, résidant dans un pays d'Afrique et écrivant en langue française. Si c'est votre cas, vous pouvez envoyer votre manuscrit sur la plateforme dédiée sur Internet dont vous trouverez l'adresse précise sur la page de l'émission d'aujourd'hui et vous aurez jusqu'au 17 juin 2025 pour vous inscrire et déposer vos textes. Après Yaya Diomandé, lauréat pour Abobo Marley, Fanatiki pour CAF72, Ernest pour Comme une reine et Nins Monfalé pour Ses soleils ardents, vous serez peut-être la 5e personne à gagner le prix, être édité et venir en France. Bonne chance à toutes et à tous et vive le prix Voix d'Afrique.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.